Vous écoutez votre radio locale, il est 21h passées de quelques secondes sur l'antenne de Radion 90.5 dans Lyon et aux quatre coins de la Bourgogne et de France sur le www.radion.fr. Voici comme chaque mercredi votre émission littéraire, c'est Wagon Libre et nous sommes ensemble jusqu'à 22h. Bernard Lecomte, bonsoir.
Bonsoir.
Alors Bernard, vous revenez sur les banquettes de Wagon Livre, mais également sous le feu de l'actualité éditoriale avec votre dernier essai qui a paru en octobre dernier, Les secrets du Kremlin, sous-titré 1917-2017, c'est aux éditions Perrin. Bernard Lecomte, dois-je encore vous présenter journaliste, grand reporter à La Croix et à L'Express, vous avez bien connu ce monde du communisme puisque vous avez couvert les événements de la chute du mur de Berlin, entre autres en 89.
J'ai eu en effet la chance extraordinaire pour un journaliste, je souhaite cette chance à tous les jeunes journalistes d'aujourd'hui, de couvrir un événement qui, d'une part, a duré plus de 10 ans et, deuxièmement, a été un des grands tournants du siècle, du XXe siècle, bien sûr, à savoir la fin du communisme, la fin de l'URSS. J'ai eu la chance, moi, de commencer ce métier au moment où ça commençait à bouger en Pologne. Vous voyez, dans les années 77, 78. Et puis, il y a eu ce pape polonais qui est venu changer un peu la donne. Et puis, il y a eu l'apparition de ce personnage incroyable qui était Lech Walesa, les chantiers navals de la Baltique, vous vous rappelez. Et puis ensuite, coup de chance professionnel, si j'ose dire, Gorbatchev est arrivé. Et Gorbatchev a totalement changé les choses en Union soviétique jusqu'à provoquer, volontairement ou non, c'est une autre question, la chute et du communisme et de l'URSS, en passant bien sûr par le mur de Berlin. J'ai eu cette chance extraordinaire, évidemment, et ce livre qui sort, comme par hasard, vous allez me dire, avec un petit sourire, pour le centenaire de la Révolution russe, ce livre, évidemment, reprend un peu tous les grands sujets les plus romanesques et les plus mystérieux de cette histoire incroyable que fut, en effet, de 1917 à 2017, l'histoire du communisme.
Je rappelle, Bernard, que outre la biographie que vous avez consacrée au pape Jean-Paul II, vous avez fait paraître, c'est en 2015, une biographie de Gorbatchev, on en avait parlé d'ailleurs en son temps dans Wagon Livre. Alors Bernard, page 167, mais il y a plein de références comme ça dans votre livre, vous écrivez « Moscou n'a-t-elle pas toujours été une ville de ragots, de légendes, d'indiscrétions, voire de désinformations ?» Je vais finir par croire que Bernard Lecomte, vous adorez les secrets. Parce qu'il y a eu les secrets du Vatican, maintenant nous sommes dans les secrets du Kremlin.
Les secrets, vous savez, c'est ce qui fait le charme, les mystères et toutes les histoires les plus romanesques d'un endroit. Moi, je suis, de par ma profession, je suis attiré par les lieux de pouvoir. Il y a deux lieux de pouvoir, en effet, que je connais bien au monde. C'est le Vatican et le Kremlin. Vous allez me dire, ça n'a pas grand-chose à voir. En fait, si. En fait, ce sont deux lieux où il s'est tramé énormément de choses, où on rencontre des personnages absolument extraordinaires et où, souvent, s'est joué une partie du sort de la planète. Alors, Moscou est une ville qui fait rêver. Moi, je suis un grand amoureux de Moscou. Souvent, vous savez, ceux qui visitent la Russie tombent en amour devant Saint-Pétersbourg, parce que Saint-Pétersbourg, c'est la ville de Pierre le Grand, c'est la ville des grands poètes, c'est la capitale des tsars. Mais en réalité, Saint-Pétersbourg est une ville complètement européenne. Elle a été faite par des architectes français, italiens, elle a été allemande pendant longtemps, allemande non pas qu'elle fût occupée, mais parce que les tsarines étaient allemandes pendant des années. Alors que Moscou, ça, c'est la Russie. Vous savez, Moscou, c'est une ville où il n'y a pas d'angle droit, où il n'y a pas de ligne droite. Ça s'est fait comme ça, autour de cette espèce de forteresse un peu bizarre, depuis le tsar Ivan III, donc le grand-père d'Ivan le Terrible, vous voyez. Depuis cette époque, Moscou incarne la Russie. Et Moscou est une ville qui a des quartiers incroyablement compliqués. On s'y perd très facilement. D'abord, c'est immense. Et en plus, il y a une histoire qui est folle. Alors, je me tiens bien sûr dans ce livre à ce qui s'est passé à l'intérieur des remparts. Cette forteresse de briques rouges qui domine la Moscova est évidemment un lieu de fantasme absolu. Et quel gamin, quel jeune homme dans le monde entier n'a pas rêvé un jour de visiter cette espèce de forteresse improbable qui a abrité en effet tellement de secrets.
Alors Kremlin d'ailleurs, en russe, Kreml, ça veut dire la forteresse.
C'est ça, tout simplement. Il y a énormément de vieilles villes russes où il y a un Kreml au milieu et que l'on visite évidemment. C'est souvent le point touristique le plus fort de la ville. Mais bien sûr, à Moscou, il y avait ce Kreml, cette forteresse qui datait de plusieurs siècles et qui a abrité les plus extraordinaires mensonges, les crimes, les trahisons, les fantasmes les plus fous qui ont en fait illustré cette histoire folle que fut l'histoire de l'Union soviétique.
Alors justement, l'actuel maître du Kremlin fait beaucoup parler de lui, c'est Vladimir Poutine. Alors je commence par, le dernier chapitre, puisque vous terminez, ça commence par Rasputin, et vous terminez avec Vladimir Poutine, avec cette question, d'où vient Poutine? Poutine, en 89, c'est un membre du KGB en poste en Allemagne de l'Est, et lorsqu'il voit le mur de Berlin tombé, c'est la fin d'un monde pour lui.
Oui, c'est un moment qui est absolument essentiel dans la vie de cet homme. Et si on ne comprend pas ça, si on n'a pas cette image-là, on ne comprend rien à ce que ce Poutine, ce président Poutine, est aujourd'hui. On dit toujours Poutine, il veut reconstituer le stalinisme, etc. Non, Poutine ne veut en aucune façon reconstituer le soviétisme ou le communisme. Il se fiche complètement de l'idéologie communiste, ce n'est pas du tout son problème. Mais il veut redonner à son pays cette grandeur qu'il avait jusqu'à la chute du mur. Jusqu'à la chute du mur de Berlin, l'URSS, c'était l'une des deux superpuissances mondiales. Et elle était indiscutée. Elle a été à égalité avec les États-Unis pendant toute la guerre froide, pendant toute la coexistence pacifique. Elle a été une puissance colossale. Elle avait des amis, des alliés partout sur la planète. Elle constituait elle-même une espèce d'empire, alors un empire laïque, un empire communiste, certes, mais un empire qui englobait, rappelez-vous, les pays baltes, l'Ukraine, les pays musulmans du sud, du Kazakhstan, la Kirghizie, etc. Elle avait avec elle le Caucase, le Nord-Caucase, mais aussi le Sud-Caucase, l'Arménie, la Géorgie, etc. C'était une puissance extraordinaire. Et cette puissance allait bien sûr jusqu'à la frontière japonaise, du côté de la Sibérie lointaine. Et Poutine, vous avez raison de le rappeler, en 89, c'était un agent du KGB, en effet, un jeune agent du KGB, c'était son rêve, parce que son père avait été à moitié espion pendant la guerre, et il avait pour son père une admiration sans bornes, et son rêve secret pendant toute son adolescence avait été de devenir justement ce que son père avait été, c'est-à-dire un agent secret, en quelque sorte. Et pour ça, il a eu beaucoup de mérite, parce que c'était pas du tout évident. Poutine, il venait d'une famille très simple, il avait pas de sous, il habitait dans un appartement communautaire dans le centre de Leningrad. À l'époque, ça s'appelait Leningrad. Et il a fait beaucoup d'efforts. Il a fait des études de droit spécialement pour ça. Et puis, il a attendu, il a patienté. C'était pas facile. Et puis, ses premiers postes étaient très décevants. Ses premiers postes au KGB, c'était des postes de petit indic local. Il faisait les hôtels. Il allait prendre au bar des verres avec tel homme d'affaires de passage ou diplomate ou journaliste occidental. Et puis, il essayait de lui faire passer 2-3 idées. Puis, il essayait d'avoir 2-3 C'était ça, c'était un petit boulot de petit espion. Et puis, il a eu la chance, à un moment, d'être envoyé en Allemagne de l'Est. Alors, l'Allemagne de l'Est, c'était un petit peu l'entrée vers le reste du monde. On pouvait espérer, quand on était nommé en Allemagne de l'Est, que la suite de sa carrière allait probablement se passer en Allemagne de l'Ouest, et peut-être au-delà, aux États-Unis, en France ou en Angleterre, ce qui est évidemment le top du top pour un agent secret soviétique. Et Poutine en était là, il était en Allemagne de l'Est, il était à Dresde, il s'occupait de surveiller un peu les allées-venues des hommes politiques est-allemands, il veillait à ce que l'autorité de l'Union soviétique soit bien respectée, que l'Allemagne de l'Est tournait rond, c'est-à-dire aux ordres de Moscou, bien sûr. Et puis, ce jeune agent secret qui est là, à Dresde, avec sa famille, il assiste à l'improbable. Le truc inouï pour lui, c'est l'effondrement du mur de Berlin. Ça se passe, vous vous rappelez, le 9 novembre 1989. Dresde est tout près de la frontière allemande. Il est vraiment là. Quand on dit qu'il est aux premières loges, c'est physiquement qu'il est aux premières loges. de cet événement qui est pour lui la fin de tout, la fin de son... De la grandeur de son pays, la fin de sa carrière, la fin de son idéal, la fin de ses ambitions, tout s'effondre à la fois, puisque cet empire dont il est là, une des sentinelles approchées le long de la frontière interallemande, cet empire perd ses frontières, perd sa grandeur, perd tout, et va devenir une espèce de Russie un peu brinque-ballante, en train d'essayer de garder un minimum de structure étatique. Pour lui, c'est un désastre absolu. Et si on n'a pas cette image-là dans la tête, cette idée que pour lui, ce jour-là, tout s'est effondré, on ne comprend rien à la façon dont Poutine aujourd'hui incarne ce désir de reconstituer la grandeur, la splendeur de la Russie d'avant.
Alors, est-ce que les relations entre l'Europe et la France et Poutine vont s'améliorer? Il est montré du doigt comme un peu dangereux, nostalgique d'une grande Russie, d'un peu de la Russie éternelle, Poutine. C'est cela, Bernard?
Bien entendu. Vous savez, l'histoire de l'Union soviétique, certes, a commencé avec la révolution d'octobre, mais enfin, elle n'a pas commencé de rien. Elle a commencé avec un empire qui a son histoire, sa langue, sa culture, ses poètes, ses musiciens, et qui a eu ses tsars. Bon, voilà, le dernier tsar était un faible, c'était Nicolas II, c'était un homme très influençable, qui n'était pas du tout fait pour diriger un empire, et qui a été pris dans le déclin de son propre pays, qui était menacé à la fois par la guerre. C'est très important de se rappeler que tout ça, il y avait les Allemands, hein, là, c'était Guillaume II, à l'époque, c'était pas Hitler encore. En 1917, il y avait Guillaume II à la frontière qui menaçait la Russie. Et puis, il y avait...
Une contestation tout de même de l'autorité des tsars, parce voilà. Que c'est quand même... La Russie, quand bien même est un pays splendide, c'était un empire aussi à bout de souffle et un pays qui... dont les conditions de vie étaient parfois médiévales dans
les campagnes reculées. Surtout pendant cette guerre où la paysannerie avait tout à perdre. D'abord parce que c'est elle qui a fourni les troupes. C'est toujours la paysannerie qui fournit les troupes de malheureux fantassins qui vont au front se faire descendre dans les premières lignes. Et là, on est dans un pays où ça ne se passe pas à coups de milliers de personnes. Là. C'est immédiatement des centaines de milliers. Donc cette paysannerie qui était pauvre, qui supportait le prix de la guerre et qui en même temps envoyait tous ses enfants au front, ne supportait plus le tsar. Et puis dans les villes, les nouveaux ouvriers, alors c'était pas encore très grand, il n'y avait pas un immense prolétariat à l'époque. On estime à l'époque qu'il y avait quoi, 3% de la population qui était ouvrière. Vous voyez que c'était pas beaucoup. Mais ces 3% étaient très actifs, c'était des gens cultivés. Ils venaient eux-mêmes de la campagne, mais ils avaient découvert un métier ici ou là. Ils fabriquaient des automobiles, des chars, des charrues, que sais-je. C'était l'industrie nouvelle de la Russie, c'était la force vivante de la Russie. Et ces gens-là, eux aussi, en avaient marre. Et il a fallu qu'à un moment, une poignée de types, qui étaient les bolcheviks, les amis de Vladimir Lénine, profitent d'un moment favorable après l'abdication du tsar, pour écarter le gouvernement provisoire qui avait suivi cette abdication, pour prendre le pouvoir dans des conditions que personne n'avait prévues. C'était en octobre 1917.
Parce qu'il y a eu effectivement une révolution ratée, enfin réprimée dans le sang en 1905. Il y a cette révolution russe de février 1917 qui est une révolution bourgeoise,
oui,
dominée par Kerensky.
Voilà, c'est un peu comme notre révolution en 89. En 89, la révolution française, c'était une révolution bourgeoise faite par des avocats, c'était pas du tout des ouvriers. C'est après 92-93 que ça a continué autrement. C'est pareil. Lorsque le tsar abdique, le gouvernement qui prend la suite, le gouvernement provisoire de Kerensky que vous venez de citer, c'est un gouvernement de gens très intermédiaires. C'est des bourgeois, c'est des militaires, c'est des gens très cultivés. C'est en aucune façon ni des ouvriers, ni des bolcheviks. Vraiment, ni l'un ni l'autre.
Mais on est très loin du pouvoir des soviets, que ce soit les soviets de soldats ou les soviets... d'ouvriers.
Les soviets, à l'époque, vous savez, c'est une invention marxiste qui consistait à, dans une usine ou dans une ville ou dans un quartier, d'organiser une espèce de vote plus ou moins truqué. D'ailleurs, il faut bien dire que tout ça n'était quand même pas très, très démocratique. Mais enfin, on constituait une espèce d'assemblée qui était les représentants du peuple et on appelait ça soviet. Vous savez, en russe, soviet, tout simplement, ça veut dire conseil. Donc, c'était le conseil ouvrier de ceci ou de cela. Et dès 1905, donc bien avant la fin fin du tsarisme, la révolution que vous venez de citer en 1905, eh ben, il y a eu un gars qui était le patron du soviet de Petrograd, c'était Trotsky déjà. Vous voyez qu'il y avait comme ça quelques types qui étaient là, très dynamiques, plutôt intelligents, qui profitaient des situations pour prendre en effet le pouvoir et préparer la révolution. Cela dit, ni Trotsky, ni Lénine, ni personne n'avait prévu au début de l'année 1917 que cette fameuse révolution serait pour le mois d'octobre. Personne ne l'avait prévu. On a même retrouvé dans les œuvres de Lénine une lettre où Lénine, en janvier 1917, explique que bah, voilà, quoi, la révolution, c'est pas pour sa génération, ça sera pour les enfants de ses enfants. Voilà, Lénine pouvait se tromper, y compris sur ses propres œuvres.
La rumeur est une spécialité russe, on aura l'occasion d'y revenir, et puis Bernard Lecomte, notre invité, vous le prouvera également. On marque un premier temps de pause musicale, c'est Wagon Livre, nous sommes ensemble jusqu'à 22h, et c'est les secrets du Kremlin, ce soir, avec notre invité. This is Radio Moscou.
Не хочу, чтобы ты это считал свинством с моей стороны. Музыкин, мне это очень важно. Я провокую сейчас выброшу Сибу.
Нет.
Я провокую сейчас выброшу Сибу.
Нет, нет.
Я провокую сейчас выброшу Сибу.
Нет, нет.
Я провокую сейчас выброшу Сибу.
This is Radio Moscou. Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Bernard Lecomte, on a ouvert cette émission en parlant de Vladimir Poutine. Alors cette fois-ci, plongeons dans l'histoire. Alors, le premier chapitre de vos Secrets du Kremlin aux éditions Perrin met en avant un personnage exceptionnel que tout le monde connaît, c'est le fameux Rasputin. Gourou, prêtre, qu'est-il réellement? En tout cas, il a eu un pouvoir, une influence gigantesque à la fois sur la tsarine et sur ce pauvre tsar Nicolas II qu'il conseillait même politiquement, ce qui était extrêmement mal vu. Donc Rasputin devenait très gênant.
Rasputin, c'est vraiment un personnage de roman. D'ailleurs, il a donné lieu à beaucoup de fantasmes, beaucoup d'écrits, beaucoup de documents, parce que ce personnage qui aurait pu ne rien être du tout a eu en effet une importance historique au point que Kerensky, dont nous parlions tout à l'heure, qui était le chef du gouvernement provisoire de la Russie post-tsariste, Kerensky a eu cette parole très claire. Il dit « Mais sans Rasputin, il n'y aurait jamais eu Lénine ». Vous vous rendez compte l'importance du propos? Il veut dire quoi, Kerensky? Il veut dire qu'en effet, ce gourou, il n'est même pas moine. J'ai failli dire le moine, mais il n'est même pas moine. C'est une espèce de religieux de base, comme la Russie en produisait beaucoup pendant le 18e et surtout le 19e siècle.
Mais ce n'est pas un imposteur, religieusement
parlant. Non, ce n'est pas un imposteur. C'est un type, enfin jusqu'à un certain point, c'est un type qui part sur les routes. Vous savez, les Russes avaient cette forme de spiritualité. On appelait ça les Eurodivis. C'était les folles pour le Christ. On appelait ça comme ça. On appelait ça aussi les starci. Les starci en russe, ce sont les anciens, les sages, ceux qui reçoivent les gens et qui les bénissent, qui les conseillent, qui les confessent, que sais-je. Et lui, c'est une espèce de type comme ça, mal formé, mais qui part sur les routes, prêcher le bon Dieu, prêcher la sagesse. Et en réalité, il va se retrouver à la capitale, Saint-Pétersbourg, plus ou moins poussé par un évêque qui lui dit bah, « Tiens, t'as qu'à y aller, tu verras ». Le type, en réalité, va aller assez vite dans la manipulation des uns et des autres pour se retrouver intime d'un proche de la tsarine. Alors, intime, on comprend bien, parce qu'à l'époque, la Russie était extrêmement chrétienne, très, très spirituelle, et un gars comme ça, avec une grande barbe, qui faisait des bénédictions, qui pouvait prêcher, il impressionnait beaucoup. Et dans la haute société, auprès du tsar, les gens étaient très impressionnés par ces gens-là. Et lui, il impressionne jusqu'à devenir intime d'un proche de la tsarine, puis de la tsarine elle-même. Alors là, voilà, là on bascule, parce que voilà cette espèce de gourou sibérien qui arrive à Saint-Pétersbourg et qui entre dans l'intimité de la tsarine, de l'impératrice. L'impératrice Alexandra, qui est une fille très, très réceptive à tout ce qu'il dit, d'autant plus réceptive qu'il commence à lui parler de son fils. Et vous vous rappelez que le tsarevitch Alexis est hémophile. On a souvent raconté cette histoire de ce gamin qui était effectivement hémophile et donc qui faisait le désespoir de ses parents, qui ne savaient pas s'il allait vivre.
C'était l'héritier de la cour.
Or, c'était l'héritier. C'était l'homme qui, normalement, aurait dû devenir tsar à son tour le jour de la mort de son père, Nicolas II. Et la tsarine, donc, évidemment, la comprend, très, très, très proche de ce qu'on peut dire sur son fils, écoute cette espèce de grand escogriffe barbu qui cite Dieu tous les trois mots, et qui lui dit « Ton fils vivra ». Vous savez, on comprend la mère, elle est très émue par ça. Sauf que cette mère-là, elle est aussi impératrice. Et elle va s'enticher de ce type. Et ça va se savoir, car non seulement le gars va lui conseiller des tas de trucs, y compris politique, vous l'avez rappelé, mais en plus, il va aller jusqu'à lui faire passer des messages pour le tsar pendant la guerre, en disant « Tu devrais nommer celui-là chef des armées, etc. » Et là, les grands chefs militaires, les aristocrates, les hommes de la cour du tsar commencent à se dire « mais c'est pas possible, on ne peut pas continuer de gérer cet empire en écoutant ce gourou ». Et il va y avoir, en 1916, un complot mené par des gens très très proches du tsar, puisqu'il y a le grand-duc Dimitri, ce grand-duc Dimitri va prendre l'initiative d'assassiner Rasputin. Alors il va s'entourer d'un prince qui s'appelle Youssoupov, qu'on retrouve dans tous les films qui ont été faits, parce que le prince Youssoupov est un personnage un peu fantasque, très romanesque aussi. Mais c'est cette équipe-là, ils sont 4 ou 5 au total, qui va assassiner Rasputin dans des conditions absolument invraisemblables.
Un homme qui ne veut pas mourir.
Voilà, c'est une force de la nature, ce type. C'est un géant et il est pris dans une espèce de soirée parce qu'on lui a fait croire qu'il allait voir une princesse charmante qui en fait n'est pas là. Il boit, mais on a mis du poison dans son verre. Il mange, mais on a empoisonné les gâteaux qu'il va manger. Et il meurt pas. Il ne meurt pas. Il veut pas. Il mange, il boit et il ne meurt pas. Et à un moment, c'est le prince Youssoupov lui-même qui tire sur lui. Et il ne meurt toujours pas. Et ça va être une espèce de course folle dans les jardins du château de la famille Youssoupov qui va se terminer par 2 coups de feu, dont un tiré par le grand-duc Dimitri. Pourquoi est-ce que j'insiste à ce point ? Parce que le grand-duc Dimitri, était sur la liste de succession. C'est un petit peu comme pour le trône d'Angleterre. Il y a une liste de succession. D'abord le fils, puis la fille, puis le cousin, puis le... Voilà. Et lui était sur la liste. Et quelqu'un qui pouvait peut-être un jour succéder au tsar ne pouvait pas avoir du sang sur les mains. Ça n'est pas possible, ça n'est pas envisageable. Et donc il a fallu cacher le rôle du prince dans cette affaire. Et c'est là où ça devient un vrai roman policier. On n'est plus sur une espèce de crime un peu curieux dans les bas-fonds de Saint-Pétersbourg. Non, on est dans une affaire incroyable. Il a fallu cacher que c'est le prince Dimitri lui-même qui a tué le fameux Rasputin. Et c'est pour ça qu'une fois de plus, cette affaire, donc qui se termine clairement par la mort du prince quand même,
de Rasputin,
qu'on va retrouver congelé sur un glaçon dans la Neva, parce qu'on n'a même pas réussi à le mettre sous l'eau. Il est tombé sur la glace. Et alors, quand on va, le lendemain matin, quand on va retrouver son corps, on va le trouver avec le poing dressé. Alors ça aussi, ça va susciter bien des fantasmes. Ça veut dire qu'il n'était peut-être pas encore complètement mort quand on l'a jeté dans la Neva. Et c'est cette incroyable histoire qui se passe donc en décembre 1916 qui va complètement ruiner ce qui reste de considération pour le tsar et pour la tsarine. On est donc en décembre 1916, vous voyez bien, première partie de la révolution, abdication du tsar en février 1917 et révolution d'octobre en octobre 1917.
Il est vrai aussi, Bernard, que les prédictions de Rasputin nous laissent un peu rêveurs, puisqu'il avait tout de même dit que si lui disparaissait, l'empire tsariste disparaîtrait également. Or, finalement, c'est bien ce qui s'est produit.
C'est bien ce qui s'est produit. Alors, il faut garder cette phrase comme effectivement une espèce de malédiction de Rasputin. En même temps, soyons clairs, il faut aussi voir la situation politique. À cette époque, on sentait bien que les structures de l'empire tsariste branlait de partout. Il y avait la guerre, il n'y avait plus de quoi donner des balles aux soldats. On envoyait au front des armées entières avec des fusils en bois. Donc vous voyez bien qu'on était quand même au bord d'un séisme. Ce séisme a eu lieu. Enfin, c'était pas très compliqué non plus de dire qu'il aurait sûrement lieu.
C'est Bernard Lecomte qui nous accompagne. Bernard, on va marquer un nouveau temps de pause. Je rappelle que votre dernier ouvrage tombe à pic, hein, Les secrets du Kremlin 1917-2017. Et puis, on revient dans une poignée de minutes pour évoquer un de ces 16 secrets que vous révélez dans votre ouvrage.
Le ciel coule sur mes mains, je ne tiens pas debout. Le ciel ciel coule sur mes mains, ça ne tient pas debout. Sous mes pieds, le ciel revient.
Bernard Lecomte, alors évidemment, je n'ai que l'embarras du choix au micro. J'ai été passionné par l'assassinat, justement, de la famille impériale. Alors là aussi, les corps, on sait qu'ils ont été massacrés dans une cave, les corps ont disparu, enterrés, puis déterrés. Enfin, c'est absolument horrible.
C'est une histoire.
De cette famille impériale.
C'est une histoire épouvantable et en même temps tellement révélatrice de ce qu'était. La Russie de cette époque. La Russie vient d'être soviétisée par Lénine et les bolcheviks. Ils savent pas très bien quoi faire du tsar et de la famille du tsar, parce que d'abord, ils ont autre chose à faire que de s'en occuper. Il faut construire un État, il faut terminer la guerre contre Guillaume II. Et là, les circonstances font que la famille se retrouve sous la garde de gens du... Ça s'appelle pas encore le KGB, mais enfin, c'est tout comme.
C'est la
Tchéka. C'est pas des intellectuels, hein, les gars qui gardent la famille royale à Yekaterinbourg. C'est dans l'Oural. C'est déjà très loin de Moscou. On est au cœur de la Russie ancestrale. Et un ordre vient de Moscou qui est donné par Sverdlov, qui est le compagnon numéro un de Lénine à ce moment-là. Sverdlov, c'est le président de la Russie soviétique, et qui dit, voilà, il faut les fusiller. Et ils sont en effet fusillés dans des conditions. C'est un carnage lamentable. Il y a donc cette famille, puis il y a un petit peu de gens autour, un précepteur, une gouvernante, un cuisinier. La famille elle-même, c'est évidemment le tsar, Nicolas II, la tsarine Alexandra, et puis ces cinq malheureux enfants. C'est eux qui font le romanesque de cette affaire.
Les quatre filles et
le petit
Tsarevitch.
Voilà, les quatre grandes filles et le petit dernier, dont nous parlions tout à l'heure, le petit Alexis, qui est donc malade, qui a à ce moment-là 12-13 ans, et qui est toujours, évidemment, le successeur présumé de son père. Donc, c'est pas
Bernard,
rien.
Potentiellement, cette famille ne représentait aucun danger, si ce n'est celui peut-être que Lénine craignait que la famille puisse éventuellement rameuter l'Europe à leur secours.
Non,
Parce qu'ils ont été abandonnés, notamment par le roi d'Angleterre a complètement abandonné son cousin Nicolas II.
Ah oui, ça c'est quand même le jeune George VI, c'est le cousin germain de Nicolas II. Vous vous rendez compte, c'est presque son frère. Et il va à un moment, il a peur que s'il accueille en Angleterre le tsar et la tsarine, comme la tsarine est allemande, que la guerre n'est pas finie, il a peur tout simplement que la population britannique lui reproche d'avoir fait venir une Allemande de sa famille par alliance. Et donc, il laisse tomber son cousin germain. C'est franchement assez désolant hein, quand même. Hein. Et donc, c'est en plein Oural que le danger pour les bolcheviks, c'est qu'il y a encore des armées blanches qui luttent contre les communistes. Il y a encore une armée tchèque, il y a encore l'armée Wrangel, il y a encore Denikin. Ce sont des gens qui sont sur place, qui combattent les armes à la main pour reprendre le pouvoir aux bolcheviks.
Et qui sont fidèles au tsar.
Et qui, évidemment, sont fidèles au tsar. Et donc, la grande peur de Lénine et de Sverdlov, à l'époque, c'est que, tout simplement, une de ces armées blanches mette la main sur le tsar et en fasse un emblème, reconstitue, en quelque sorte, la Russie d'avant autour du tsar. Et donc, l'ordre part pour Yekaterinbourg. Et là, on dit, voilà, tuez-les. Et ils sont, en effet, tués dans des conditions épouvantables, emportés dans des forêts à deux ou trois reprises. On brûle les corps, on essaye de cacher le crime, on n'y arrive pas. C'est pas des très bons, hein, les types qui font ça, incontestablement. C'est vraiment des gars qui font ça sans aucune espèce de sentiment. Et ces conditions-là, pourquoi j'insiste, ces conditions-là vont faire que quand on va essayer de reconstituer ce qui s'est passé, quand on va essayer de retrouver les corps, quand on va essayer de savoir, comment sont morts le tsar, la tsarine et la famille impériale, eh bien, on va avoir énormément de mystères, de points curieux, parce que, tout simplement, ça s'est fait dans des conditions épouvantables. C'est tellement curieux qu'il va y avoir parfois des thèses sur « Ah oui, mais tel ou tel membre de cette famille, en fait, n'est pas mort ». Et notamment, il y a une histoire très célèbre, c'est la fausse Anastasia. Anastasia, c'était une des quatre filles, bien sûr. Et on croit avoir retrouvé un jour à Berlin, longtemps après, une femme qui a perdu la mémoire, qui parle un peu russe et qui a voulu se noyer et qui serait la fameuse Anastasia. Vous vous rendez compte, si c'était vrai, l'importance de la chose. Or, on n'a jamais pu le prouver, mais là encore, c'est une histoire dans l'histoire, c'est un polar dans un autre polar.
En tout cas, cette famille impériale russe a bénéficié en 1998 de funérailles nationales à la cathédrale Pierre et Paul à Saint-Pétersbourg.
Oui, puisque en 98, donc, l'URSS a disparu, le communisme a disparu, la Russie essaye de reprendre un peu ses marques. Reprendre un peu ses marques, ça veut dire retrouver un peu ses racines, son histoire. Et le président Boris Yeltsin décide, en effet, qu'on va enterrer en grande pompe et canoniser la famille impériale de façon complètement nationale, patriotique. Et en effet, une partie de l'Église marche avec ça. La plupart des intellectuels sont d'accord. C'est une façon de reconstituer l'histoire. Mais avouez quand même que c'est incroyable que si longtemps après, on dise « bon ben voilà, c'est bien eux qui ont été tués en ce mois de juillet 1918, il faut absolument leur redonner une forme tombale, évidemment, un mausolée, une église, pour que l'histoire reprenne sa place. » Vous vous rendez compte, l'histoire russe qui reprend sa place presque un siècle après.
Les secrets du Kremlin, bien sûr, si on veut en savoir un peu plus, hein, on se procure l'ouvrage qui est disponible en librairie, c'est aux éditions Perrin, et c'est signé Bernard Lecomte, que l'on retrouve dans une poignée minute. On marque un nouveau temps de pause. C'est Wagon Livre sur Radio, et nous sommes ensemble jusqu'à 22h.
Wagon Livre, votre émission littéraire. Chaque semaine, Yannick Petit offre un certain regard sur la création et explore l'actualité littéraire et éditoriale. Wagon Livre, en direct chaque mercredi à 21h sur Radion et Radion.fr. Proposé et présenté par Yannick Petit, archives et podcast sur yannickpetit.fr.
Secret du Kremlin, c'est le titre du dernier ouvrage de notre invité, Bernard Lecomte. Alors, bien sûr, hein, je vous invite chaudement à vous procurer l'ouvrage qui est absolument passionnant. Hein. C'est passionnant, par exemple, Bernard, ce que vous écrivez sur la succession de Staline, avec ces trois hommes, Malenkov, Khrouchtchev, Beria, comment ils se comportent pendant l'agonie de Staline. Il y a un chapitre passionnant aussi sur l'exil de Trotsky. Je ne savais pas, par exemple, qu'il avait un certain temps séjourné dans le sud de la France et que André Malraux était venu lui rendre visite.
Ça, je absolument, le jeune... romantique, pseudo-révolutionnaire André Malraux est allé voir, en effet, Trotsky chez lui.
Et puis, Bernard, vous rappelez que finalement, Staline a eu, alors, est-il honnête, est-il sincère, une grande admiration pour le De Gaulle, mais le De Gaulle de la résistance, le De Gaulle des années 44-45. On sait que De Gaulle, ensuite, en dès 66, a, rétabli un peu de saines relations avec l'Union soviétique. Puis j'aimerais qu'on parle un petit peu de la relation entre ce président de la République française, ce socialiste François Mitterrand, qui s'est retrouvé ensuite, dès son arrivée au pouvoir, avec une affaire d'espionnage retentissante. Alors Bernard, d'abord, De Gaulle, Staline, deux titans, deux géants de l'histoire tout de même.
deux géants, dont un qui, franchement, ne l'était pas complètement, parce que De Gaulle, à l'époque, c'est un homme qui n'est pas tout à fait seul, bien sûr. Il a été à Londres, il a dynamisé la résistance, il a fait en sorte que les Français soient parmi les troupes qui se battent contre Hitler. Mais De Gaulle, ça n'est pas du tout encore, à ce moment-là, le grand personnage. On est en décembre 1944. En décembre 44, De Gaulle, c'est le chef de la France combattante depuis des années, n'a qu'une idée. Une idée, c'est que la France soit parmi les vainqueurs de la guerre. Et comme vous vous rappelez, c'était pas tellement l'idée ni de Roosevelt ni de Churchill, qui avaient toujours considéré les Français comme des vaincus. Et après tout, les Occidentaux qui se battaient contre Hitler, c'était les Américains et les Britanniques.
Oui, à Yalta, c'est Staline, Churchill et Roosevelt.
Voilà. Or, justement, De Gaulle se dit, il faut absolument que je sois dans les petits papiers de Staline, parce que c'est Staline, de l'autre côté, qui va faire en sorte que la France soit associée à la victoire. Parce que Staline a besoin d'allier face à Roosevelt et Churchill. Alors ce calcul très simple, qui repose sur une donnée diplomatique toute banale, c'est que la France a toujours eu besoin de la Russie pour compenser l'Allemagne. Vous savez, il suffit de regarder la carte de l'Europe. Hein. Pour éviter d'être tout seul face à l'Allemagne, la France a toujours eu besoin d'une Russie derrière qui puisse être son allié. C'est vrai depuis des siècles. Staline le sait, De Gaulle le sait. Et c'est pour ça que Staline va en effet accepter de recevoir le général De Gaulle en décembre 1944 à Moscou. Alors je vous passe les détails, parce que les détails, c'est à soi, c'est un film incroyable. Comment le général d'escale d'avion en escale d'avion va rencontrer au passage le Shah d'Iran, etc., pour se retrouver dans l'extrême sud de la Russie soviétique. Et là, il va prendre le train. Alors le train, on le dit pas, mais c'est le train du tsar. C'est un train, un wagon très moderne, très luxueux. Il traverse la Russie en pleine fin de guerre. Il arrive à Moscou, il est reçu au Kremlin.
Alors, il refuse de dormir.
Voilà, déjà, il se fait mal voir par Staline, parce qu'il dit non, moi, je ne veux pas dormir dans votre résidence. Là, je vais dormir à l'ambassade de France. L'ambassade de France, il pleuvait de l'eau, il y avait un toit percé. Mais ça fait rien. De Gaulle ne voulait pas. Il savait très bien d'ailleurs que dans la fameuse résidence, il y avait des micros partout, bien sûr. Mais ce qui est très intéressant, c'est comment De Gaulle, qui a encore une fois très peu de force avec lui, parce que en 44, rien n'est joué, la guerre n'est pas finie. Rappelons-nous que la guerre ne finit que 4 mois plus tard. Et ce De Gaulle-là va être droit devant Staline, va jouer une espèce de partie de poker menteur en pleine nuit. Staline veut faire en sorte qu'il trahisse la Pologne, parce que Staline est en train de conquérir la Pologne à ce moment-là. Donc il voudrait que la France reconnaisse la Pologne communiste. De Gaulle, évidemment, dit non. Et Staline insiste. Staline dit, si vous ne reconnaissez pas la Pologne, tant pis pour vous, rentrez chez vous. Et à ce moment-là, en effet, le général dit, monsieur le maréchal, je repars à Paris, nous avons très bien discuté, tout va bien. Et Staline est complètement stupéfait du culot du général de Gaulle et finit en effet par signer avec lui un traité qui le fera incontestablement, qui aura beaucoup d'importance pour faire entrer la France dans le camp des vainqueurs. Donc on est dans une période très très décisive et dans une partie de poker menteur incroyable dont je vous laisse découvrir les détails dans mon récit. C'est un des récits très peu connus, mais les plus extraordinaires de l'histoire de De Gaulle.
J'ai noté, par exemple, vous l'écrivez, Bernard, le 24 avril 1975, François Mitterrand, avec une délégation de camarades socialistes, on est en 75, hein, va déposer une gerbe de fleurs devant le mausolée de Lénine. Et quelques mois plus tard, Jacques Chirac fait la même chose. Le président Valéry Giscard d'Estaing fera la même chose aussi. D'ailleurs, c'est étonnant. Les Soviétiques préféraient plutôt Giscard d'Estaing à Mitterrand avant 81.
Oui, parce que d'abord, Mitterrand a toujours eu, aux yeux des Soviétiques, a toujours eu une image qui vient de la 4e République, qui est une image très pro-américaine. Et il faut reconnaître que les dirigeants de la 4e République, en pleine guerre froide, étaient évidemment des alliés de l'Amérique, ça c'est clair. Mais Mitterrand a eu toujours une image très pro-américaine. Et quand, en effet, il se présente aux élections présidentielles en France, les Soviétiques ne font pas mystère que ça n'est pas leur candidat. Et en particulier, alors c'est vrai évidemment en 1974, mais là Mitterrand perd, et en 1981 quand il gagne. Or en 1981, les soviétiques avaient marqué très clairement qu'ils auraient préféré que Giscard d'Estaing reste au pouvoir, ce qui n'est pas sans un certain paradoxe. Dans l'autre sens, ce défilé au mausolée de Lénine ça nous rappelle que l'Union soviétique de l'époque, c'est une Union soviétique qui a, au fond, tué ses mauvais démons, elle a déstalinisé, c'est une puissance formidable, et c'est une puissance, là encore, où le général de Gaulle nous dit « attention, c'est un ami de la France ». Alors, on se fiche du communisme, des droits de l'homme, tout ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est est-ce qu'on a besoin d'une bonne relation avec ce pays-là pour que la France reprenne ses forces et sa place dans le monde. C'est ça le sujet que de Gaulle a très bien posé en 1944, qu'il a très bien posé à nouveau en 1966 et qui va déterminer la suite. Alors, Mitterrand, quand il arrive au pouvoir en 1981...
Il a quatre ministres communistes.
Il a quatre ministres communistes. Donc, il s'est déjà... Il est très mal vu par les soviétiques, mais le fait même qu'il ait quatre ministres communistes dans son gouvernement, qui est l'Union de la gauche, évidemment, il est très très mal vu des Américains aussi. Donc il part très mal, Mitterrand, parce qu'il n'a aucun allié au départ. On le considère comme un type dangereux d'un côté comme de l'autre.
Alors il y a une affaire d'espionnage qui va un petit peu, disons, rétablir les relations franco-américaines. C'est le fameux dossier Farwell.
Farwell. Le dossier Farwell, c'est un cas extraordinaire dans l'histoire de l'espionnage moderne. C'est un gars qui s'appelle Vetrov, qui est un technicien, ingénieur soviétique, qui a été en poste en France, bon, où il a noué quelques contacts, c'est pas du tout absurde. Il a noué des contacts avec la Thomson, bon, très bien. Et un jour, cet homme-là veut faire défection. Alors on lui dit, vous voulez quitter l'URSS, vous voulez partir à l'Ouest? Non. Il répond, alors quand je dis il répond, c'est compliqué, hein, ça prend des mois de contacts mystérieux, des agents de la DGSE, des agents de la DST, etc. Et il dit non, moi je veux faire très mal au KGB que je vais, et je vais vous passer des documents. Et voilà, cet homme, je vous passe les détails, parce que là, on est vraiment dans du James Bond, et dans du très bon James Bond, et le type fait passer en effet en France des milliers de documents, des milliers, pas des dizaines, des milliers de documents sur l'emprise de l'espionnage soviétique dans les usines occidentales. Vous vous rendez compte l'importance de ce sujet. Et quand Mitterrand arrive au pouvoir en 81, il y a ça sur son bureau. Et Mitterrand comprend tout de suite l'intérêt qu'il va pouvoir en tirer quand il va voir le président des États-Unis quelques semaines après son élection.
Reagan, à l'époque.
Ronald Reagan. Ronald Reagan, il dit à Reagan, écoutez, j'ai quelque chose qui va vous faire comprendre. Parce que Reagan le voit arriver comme un scorpion, l'homme qui a mis des communistes dans son gouvernement. Et Mitterrand lui dit, vous allez tout comprendre. Et il lui raconte l'histoire Farwell et lui montre les documents dont il a fait un double pour la CIA. Et là, évidemment, d'un seul coup, à la CIA, on se dit, mais c'est incroyable, incroyable, on n'a jamais vu un truc pareil, jamais un document aussi riche. Et c'est à partir de là que la CIA et la DST vont jouer un jeu un peu compliqué qui va vite se terminer parce que le fameux Farwell, et pour une raison qui n'a rien à voir avec ces histoires d'espionnage, ça va être une union de corne-cul, il tue un type qui le voit dans sa voiture au bord d'une route avec une maîtresse, enfin bon, il se retrouve en prison. Il ne peut évidemment plus rien faire. Il va rester en prison. Et c'est en lisant les lettres que cet homme-là envoie à sa femme que le KGB va enfin comprendre que c'est lui, Farwell. Et à ce moment-là, évidemment, une fois que c'est fait, c'est terminé. Il est jugé, exécuté.
La France prendra d'ailleurs des sanctions. En avril 83, la France expulse 47 agents soviétiques. Donc, était dans l'organigramme que Farwell avait transmis.
Avec des personnes qui sont extrêmement importantes à l'ambassade, au consulat, à l'UNESCO. C'est un coup très très dur porté au KGB de la part du gouvernement français, ce fameux gouvernement dont Mitterrand est l'emblème. Donc on a quand même, grâce à cette histoire, complètement renversé le rapport entre la France et l'Union soviétique.
Il y a aussi un chapitre passionnant sur Kravchenko, J'ai choisi la liberté. Ça, c'est, on n'a pas le temps, mais c'est formidable. Ce procès entre Kravchenko et les lettres françaises, ça, je ne le savais pas. Je l'ai appris en
disant ça. Bernard. Se passe en 1949, c'est après la guerre. Donc, c'est un ingénieur soviétique qui. Alors, quand je dis il choisit la liberté, justement, il quitte l'URSS, il se rend aux Américains, il fait un livre qui va être vendu à des millions d'exemplaires, dont le titre est justement J'ai choisi la liberté. Et aujourd'hui, encore aujourd'hui, quand un soviétique, dans les dernières années, désertait son pays, on a toujours dit, il a choisi la liberté.
Et Bernard, la propre fille de Staline, Svetlana Halilhodieva, je ne sais pas si je l'ai bien prononcée, a elle aussi choisi la liberté ?
Absolument.
Elle a quitté l'Union soviétique ?
Absolument. Elle est partie par l'Inde, elle est partie par l'Asie, parce qu'elle a pensé qu'elle n'arriverait jamais à franchir les frontières du côté ouest. Elle est partie par l'Asie. On la retrouve aux États-Unis et après, elle va faire un livre et des conférences. Et effectivement, son livre, ça dit « J'ai choisi la liberté ». La propre fille de Staline avait quitté le régime clandestinement pour gagner l'Amérique.
Bernard, dernière question extrêmement rapide. La momie de Lénine dans son mausolée Place Rouge est-elle toujours visible ou est-ce que le corps de Lénine a été enterré ? Qu'en est-il de cette momie de Lénine ?
Alors, si je fais un deuxième tome, je raconterai l'histoire en détail parce que cette momie de Lénine, elle est en principe effectivement ce qui reste du corps de Lénine qui est mort, il faut le savoir, qui est mort par moins 30 degrés. Ça a l'air de rien, c'est pas du tout un détail. C'est que quelqu'un qui meurt par moins 30 degrés, on peut évidemment garder le corps sous glace le temps de préparer les choses et de mettre ces produits qui vont en effet être comme les momies des pyramides d'Égypte, qui vont garder le corps très longtemps. Et les chimistes, de décennie en décennie, se sont occupés en effet de maintenir ce corps. Alors, le grand point d'interrogation, c'est tout simplement que le corps de Lénine a été transporté pendant la guerre à Kouibitchev, en Asie centrale. Évidemment, les Allemands étaient là, hein, donc il fallait transporter tout ce qui était précieux. Donc le corps de Lénine. Et là, il y a quelques historiens qui disent c'est à cette époque que là, on a un peu changé les choses et que le corps qui est revenu n'était pas tout à fait le même que celui qui était parti. Ça n'est qu'une thèse. Honnêtement, c'est pas moi qui vais vous dire si elle est juste ou pas.
En tout cas, pour l'heure, on se régale avec Les secrets du Kremlin. Donc, c'est disponible en librairie, c'est aux éditions Perrin et c'est sous la plume de Bernard Lecomte. En attendant, le communisme pour les nuls, à ce que j'ai entendu dans une émission de radio.
Oh, à la fin de cette année, oui. Je voulais en faire une surprise, mais voilà.
C'est raté. Ouais. Un grand merci, Bernard, d'avoir été une fois de plus devant le micro de Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Rendez-vous la semaine prochaine. C'est Wagon Livre, vous savez, Bernard, c'est le mercredi à 21h. Toujours sur Radio. Merci de nous avoir suivis. Excellente fin de soirée à toutes et à tous. Encore merci Bernard. Au revoir.
Merci Yannick.